de la vective. Ou bien regardez la vie sensible de connaissance et la vie sensible affective, ce qu'on appelle les passions. Alors comme j'ai annoncé, l'intelligence, pour ne pas vous dérouter, je vous vois l'intelligence. Et la fois prochaine, nous verrons
avait été professeur à Fribourg, et le père m'a donné de son temps.
musiciens qui sont qui ont quelque chose de génial. Et donc à entendre le moteur d'une auto ou d'une moto pour dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. » Comme le médecin quand il écoute le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu comme ça une fois un petit mécano italien qui était extraordinaire. On était en panne tout près d'assises. Il s'est mis à écouter le moteur. Première chose qu'il a fait, il dit « Essayez un peu. » Puis il m'avait « Oh, oui, ça doit être ça. » Puis il s'est mis, et en effet, il est tombé dessus, immédiatement. Il y a des formes d'intelligence différentes. Alors, ce que nous allons faire d'abord, c'est de discerner. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Vous ne l'avez jamais vue. Ça existe. C'est la première forme de l'esprit. C'est la forme la plus manifeste de l'esprit. Pas la seule. Et née spirituellement, c'est encore quelque chose de spirituel. Mais c'est plus caché, plus difficile à deviner. Tandis que l'intelligence, ça se manifeste plus. Alors l'intelligence, ça a pris au cours des temps des noms très différents. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi ça. Chez les Grecs, l'intelligence, c'est le nous. Le nous, en grec. anima. Champ, chemin, homme, ça a une signification. Je ne peux pas me représenter homme au sens tout à fait rigoureux. Mais ça a une signification. Rationnel, ça a une signification. Tous les mots dont je me sers pour essayer d'exprimer quelque chose, ça a une signification. Et de temps en temps, il y a un mot proprement philosophique dont vous ne saisissez pas la signification. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Il faut noter les mots dont on ne sait pas la signification. Il faut les noter. Puis après on dit, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Normalement, un philosophe, quand il parle, il connaît la signification des mots. Un rhéteur, pas toujours. Il vous donne là la petite expérience que Socrate faisait pour rappeler aux jeunes qu'ils employaient constamment des mots dont ils ne savaient pas la signification. Et c'était la manière dont il enseignait. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ce mot-là? Quelquefois, les gens sont très ennuyés. Je me souviens, c'était à Fribourg, où il y avait un jeune Français, dont je ne dirai pas le nom, un jeune qui se lançait. Il avait des amis à Fribourg, on l'avait invité à faire une conférence littéraire. c'est ennuyeux. Vous avez le droit de passer des examens en employant des mots dont vous ne savez pas la signification. Le professeur qui vous examine n'a qu'à être intelligent. Mais vous avez le droit de faire un feu d'artifice extraordinaire pour un examen et donc d'employer des mots sans savoir très bien ce que ça veut dire. Mais quand vous faites une conférence ou un cours, vous n'avez pas le droit. Parce que vous parlez à des gens qui viennent vous écouter. Et normalement, vous devez transmettre quelque chose que vous avez, sur laquelle vous avez réfléchi. Je sais très bien que tous les mots que vous avez employés sont très à la mode. Mais ces mots ont une signification, du moins on peut leur donner une signification. Si on a réfléchi dessus, le problème de la réflexion et de la signification, ça c'est l'éveil de l'intelligence. Quand vous répétez des mots, vous n'avez besoin que de la mémoire. Le perroquet fait de même. Et il ne pense pas. Un perroquet ne pense pas. Il répète des mots. Un gosse, quand il apprend sa leçon, il a le droit de répéter des mots sans comprendre. Mais quelqu'un qui donne une conférence n'a pas le droit de répéter des mots sans savoir la signification de ces mots. Il a le droit de leur donner une certaine signification qui est propre à sa philosophie. Très bien. Mais il doit savoir ce que ça signifie. Mais là, vous saisissez tout de suite le problème de l'intelligence. Les mots communiquent normalement ce qu'on pense. Je sais que beaucoup de personnes ont besoin de parler pour penser, mais normalement, on pense avant de parler. Normalement, on doit méditer sur un sujet avant de le communiquer aux autres, et avant, par le fait même, de parler. La parole est faite pour communiquer aux autres ce que je pense. Et ma pensée a sa signification. Je crois que c'est le problème de la signification qui nous fait comprendre en premier lieu ce qu'est l'intelligence. Préciser la signification de ma connaissance des réalités, puis ensuite discerner, juger. Ah, ça c'est déjà beaucoup plus calé. La signification, c'est élémentaire. Juger, discerner, estimer, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il faut des critères. C'est en fonction d'un certain ordre que vous critiquez, en fonction d'un ordre établi ou d'un ordre que vous-même vous avez pensé. Alors vous jugez en référence à cet ordre et vous estimez en fonction de cela. Il y a donc deux grandes fonctions de l'intelligence. Saisir la signification des choses. Discerner, juger. Il y a des intuitions poétiques. Il y a des intuitions mathématiques. Henri Poincaré a décrit admirablement ce que c'était que l'intuition mathématique. Et c'est vrai, les mathématiciens ont des intuitions jusqu'à un certain âge, vous savez, jusqu'à 40 ans, 45 ans, après c'est fini. L'avantage de la philosophie, c'est qu'on peut tout le temps continuer à en faire. Il n'y a pas de palier, sauf quand on tombe dans le gagatisme. Autrement, il n'y a pas de palier, on peut creuser tout le temps. C'est vrai que les intuitions représentent une certaine jeunesse de l'intelligence. Ça, c'est très net. C'est la jeunesse de l'intelligence. Mais quand il n'y a que des intuitions, on reste toujours jeune. Puis il n'y a pas de maturité. Parce qu'on ne critique pas. Il faut critiquer ses intuitions. Il faut voir si ses intuitions sont vraies. L'intuition, c'est l'intelligence liée à l'imagination. Quand je suis en verve, je découvre des quantités de choses, mais il y a toute une part imaginative dans les intuitions. Il y a des intuitions qui sont purement imaginaires, purement, qui n'ont aucun contenu intellectuel. Et dès que je les analyse, je vois que rien. Alors, c'est peut-être très intéressant, c'est peut-être très poétique, ça éveille, mais ça n'instruit pas. Ça ne structure pas quelqu'un. L'expérience, ah, c'est tout à fait différent. L'expérience, c'est le contact avec une personne humaine. C'est le contact avec les réalités. L'expérience peut être source d'un approfondissement. L'intuition, c'est merveilleux, mais quelquefois, ça dépasse un tout petit peu tout ce qu'il faudrait regarder un peu plus près. Alors, des esprits intuitifs, c'est très très beau, c'est très généreux. Mais quelquefois, ça manque un tout petit peu de profondeur. On construit des ponts aériens. C'est très intuitif. Puis, vous ne voyez rien. Donc, l'expérience, je dirais que c'est la forme la plus simple et première de ma vie intellectuelle. Et puis, à côté de l'expérience, l'intuition. Dès que j'analyse l'expérience et l'intuition, je vois qu'il y a dans ma vie intellectuelle un contact avec les réalités. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure une saisie. La saisie n'est pas une intuition. C'est lorsque j'analyse mon expérience. Dans toute expérience, il y a une certaine saisie. Dans toute intuition, il y a une certaine saisie. C'est ce que saint Thomas appellera l'appréhension. L'expérience en premier lieu. va lire ce livre. Je saurai tout de suite quelque chose d'intéressant dedans. Le dernier film qu'il a vu. Oui. L'expérience fait que je m'enrichis de toute l'expérience d'un autre. C'est pas mon expérience, mais c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Et puis il y a les intuitions. Voilà, deux sources. Maintenant, j'analyse. Qu'est-ce que ça représente, cette expérience? L'expérience est quelque chose de complexe. C'est jamais simple, l'expérience. C'est quelque chose de complexe. J'ai conscience d'avoir l'expérience. Dans l'expérience, je peux dire oui. Purement toujours se rappeler ça. Deux points de départ de ce que c'est que l'intelligence. Alors je vais essayer, à partir de là, d'analyser. Et je vois que l'intelligence, en effet, a comme opération élémentaire ou une intuition. C'est ce que j'appelle l'appréhension, la saisie. Je saisis quelque chose quand je dis animal. Normalement, animal pour moi, ça a une signification. Quand je dis rationnel, quand je dis logique, ben c'est très logique, ça a une signification. Si on avait le temps, je dirais, mettez sur un petit papier la signification de logique. Ce serait très intéressant de voir tout l'illogisme qu'il peut y avoir dans la signification de logique. Quand je parle un ordre, je saisis un ordre. Mais il y a des ordres différents. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre? Quand il y a un mot, vous avez le petit Larousse à côté de vous et vous cherchez dans le petit Larousse. Le petit Larousse donne une certaine définition et quelquefois le Larousse renvoie à autre chose. Par exemple, j'essaie de comprendre ce que c'est que la blancheur. C'est très difficile de savoir ce que c'est que la blancheur. La signification de la blancheur. Évidemment, vous pouvez regarder une affiche persil, ça rend blanc. C'est merveilleux et ça rend blanc d'une manière tout à fait particulière. Amidonner quelque chose, c'est le rendre blanc. Mais qu'est-ce que c'est que la blancheur? C'est très difficile de préciser la blancheur. Alors vous dites, ah, la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Ça, c'est très philosophique. Ce par quoi le blanc est blanc, et c'est vrai, ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? En dehors du journal. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? L'humanité, c'est ce par quoi l'homme est blanc. Et oh, tiens, vous avez une série de mots abstraits. Et puis vous avez des mots concrets. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence a deux registres. Un registre abstrait, un registre concret. C'est curieux, ça. Pourquoi ce besoin d'abstraire? C'est une maladie, quelquefois. Les psychologues disent, quand on a besoin trop d'abstraire, la cérébralisation. Mais abstraire n'est pas une maladie. On a besoin d'abstraire. Pour mieux. Et selon le gré du vent, le vent va à gauche, le vent va à droite. Vous ne savez plus très bien. Vous faites comme tout le monde, vous planez. C'est curieux, l'intelligence a la capacité d'abstraire. Ça, les sens ne l'ont pas, et l'imagination non plus. C'est donc un phénomène tout à fait propre à l'intelligence. Mais quand je suis en pleine santé, parfaitement éveillé,
ah, c'est autre chose.
Je critique ce que vous dites à ce moment-là. Voyez, cette chose très curieuse, l'intelligence sait qu'elle peut déraper. Elle a conscience qu'elle abstrait. Et elle sait qu'elle abstrait et que c'est nécessaire pour elle d'abstraire. Elle ne peut pas faire autrement. Mon intelligence n'est pas premièrement intuitive. Elle a une foi très pauvre, qui est l'abstraction. Mais si je suis intelligent, je me sers de l'abstraction pour revenir au réel. Et je reviens toujours au réel, sachant très bien que l'abstraction est une condition sine qua non de ma pensée. Et que ce n'est pas l'abstraction qui détermine ma pensée. Alors là, je touche quelque chose de très très important, difficile à bien saisir, mais très important. Le conditionnement de ma pensée. De ma pensée humaine.
Abstrait.
ce n'est pas en réfléchissant indéfiniment sur la blancheur, sur animal, sur la liberté que je progresserai. C'est en revenant le mur blanc, bel animal, l'acte libre de l'homme qui est un ami. Quand un ami m'a dit « je t'aime librement », il a posé un acte libre à travers son amour. Quand un artiste dit « je ne veux réaliser que les choses que j'aime et que librement je veux réaliser », la liberté de l'artiste n'est pas la même que la liberté de l'ami. Et donc je réfléchis sur ces modalités différentes de l'acte libre. Ça, c'est le contenu que mon intelligence saisit. Donc vous voyez, cette chose est tellement importante de comprendre que l'intelligence peut dévier, aimer plus la manière dont elle connaît que la réalité qu'elle connaît. Et on comprend très bien comment on fait ça. Parce que la manière dont je connais, ça provient de moi. C'est beaucoup plus proche de moi. C'est quelque chose qui provient de moi. C'est mon enfant. Tandis qu'au contraire, ce que je connais, ah, ça c'est la réalité que ça pose à moi. On aime mieux ce qui est plus proche de nous que ce que nous saisissons en dehors de nous. C'est curieux, ça. C'est ce qui explique comment, à un certain moment, l'intelligence philosophique est devenue une intelligence logique. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Et ceci dès le 14e siècle. Ce sont des théologiens qui ont fait ça. Ils ont mieux aimé ce